Mercredi prochain, ce sera déjà le début de la campagne, hein. Il faut y penser et prier pour cela. Beaucoup de choses se passent dans la prière. Il y aura André Barnes donc, qui donnera le premier message mercredi prochain. J'aimerais ce soir voir deux paroles de Jésus qui pourraient paraître énigmatiques. Le Seigneur Jésus avait des façons de dire les choses qui étaient étranges et surtout les principes qui prévalent dans le royaume de Dieu ne sont pas les mêmes que ceux de notre société ou de notre monde. Et nous sommes troublés lorsque nous découvrons ce que Jésus veut nous enseigner. Et la première parole se trouve en Matthieu 19, verset 30. Matthieu 19, verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Cela répond à une question de l'apôtre Pierre, verset 27 du même chapitre. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, etc., recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et ensuite, il donne la fameuse parabole de l'ouvrier de la 11e heure. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette parabole, mais on va la lire pour avoir un petit peu le texte dans la tête. Vers chapitre 20, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. C'était un salaire normal, un denier pour une journée de travail. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, il fit de même, étant sorti vers la 11e heure, la fameuse 11e heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, mais c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, mais ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est une parabole étonnante, celle de la 11e heure. D'abord, avec cette expression, il ne faut pas croire que chaque fois qu'on est premier, on est dernier, chaque fois qu'on est dernier, on est premier. Ce n'est pas ce qui est dit. Il dit plusieurs, hein? Dans le verset 30 du chapitre 19, plusieurs des derniers, c'est-à-dire si vous arrivez dernier à votre examen, ne dites pas je suis le meilleur, hein, parce que je suis arrivé dernier à mon examen. Non, ce n'est pas comme ça qu'on applique la Bible. Ou si vous arrivez premier, ne pleurez pas en disant oh, je suis le premier, donc ça veut dire que Dieu va me rétrograder à la dernière place. Non plus, ce n'est pas l'enseignement qu'il veut donner ici. Là, il parle par rapport au royaume de Dieu, par rapport à la vie éternelle et au salut. Qui étaient les premiers, là, les premiers arrivés dans la moisson, dans le champ, d'après vous? Voilà, Israël, hein. Qui a été appelé en premier par Dieu? C'est Abraham, et puis ensuite Jacob, le peuple juif. Ils avaient leur appel qui remontait à des millénaires derrière, et ils pouvaient dire, nous, on est là depuis longtemps. Nous, on connaît Yahvé depuis très longtemps. Nous sommes les ouvriers de la première heure. Et puis, ils voient des gens comme Pierre, qui est un simple pécheur, qui n'est même pas religieux, même pas un scribe, même pas un pharisien. Ils voient des prostituées, ils voient des publicains, ils voient des païens, des non-juifs, que Jésus accueille à bras ouverts dans la foi, dans le salut. Et là, ils disent, ah mais ceux-là, c'est les ouvriers de la 11e heure. J'espère qu'ils vont avoir moins que nous. Et Dieu et Jésus dit, ils auront le même salut que ceux qui ont suivi Dieu depuis longtemps. C'est un peu à mettre en parallèle avec la parabole du fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue qui revient à son père et son père lui donne le plus beau vêtement. Il fait une fête phénoménale alors qu'il a quand même dépensé tout son héritage et il a vécu dans la débauche. Mais il est revenu avec foi et repentance. Tandis que le frère aîné, lui, qui n'a jamais quitté la maison, qui n'a jamais dérobé d'argent, qui n'a jamais dilapidé l'argent de son père, lui, il dit, mais moi, on n'a jamais fait une fête pour moi. On ne m'a jamais donné le plus beau vêtement. Le plus beau vêtement, normalement, hein, c'était le vêtement réservé à l'aîné, à celui qui était béni. Dans chaque maison d'Israël, il y avait une tunique de la bénédiction, une tunique de l'héritage que l'on donnait à l'héritier principal. Souvent, c'était l'aîné, mais on voit dans la Bible que l'aîné n'est pas toujours celui qui est le premier, d'ailleurs. Hein. Ésaü était premier, et pourtant c'est Jacob qui a été béni. Joseph n'était pas le premier, c'est pourtant lui hein, qui est devenu un peu le chef de sa famille. Donc, ce n'est pas l'aîné forcément, ce n'est pas le premier toujours qui est le premier. Et donc ici, c'est cet enseignement que ce n'est pas parce que on connaît Dieu depuis longtemps, ce n'est pas parce qu'on sert Dieu depuis longtemps, ce n'est pas parce qu'on a fait des sacrifices pour Dieu depuis longtemps qu'on doit être mieux traité que le pécheur qui arrive comme ça. Et ça doit nous apporter quelque chose parce que lorsqu'on devient chrétien, on peut à un moment s'enorgueillir et dire « mais moi ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis chrétien ». Alors que ces va-nu-pieds qui vivent sans Dieu, qui vivent pour le diable, pour le péché. Et on peut avoir du mépris pour les pécheurs, alors que Dieu les aime autant que nous, et Dieu veut leur donner le plus beau vêtement de justice, même s'ils viennent d'entrer dans le salut, même s'ils arrivent tout juste avec leur haillon, Dieu veut les bénir. Et on ne doit pas juger les personnes qui sont encore hors de l'Église ou hors de la foi, on ne doit pas traiter avec condescendance le nouveau chrétien parce que les premiers risquent d'être les derniers. L'orgueil des premiers hein, peut les amener à la dernière place. C'est ça le danger ici, c'est cet orgueil. Pierre, eh bien, lui était un Galiléen, donc il n'était pas un Judéen, donc il était un Juif de seconde zone. Ne parlons pas des publicains qui étaient ces juifs qui étaient vraiment de mauvaise vie, qui vivaient pour l'argent et le monde. Alors là, ils étaient traités comme la racaille, la pire racaille. Et pourtant, Dieu aime Pierre, Dieu aime les publicains, Dieu est allé chercher les prostituées aussi. Il y a des versets très touchants, Matthieu 21, 31, c'est un peu plus tard. Hein. Jésus leur dit au milieu de verset, hein, Matthieu 21, 31, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, seront devant vous. Devant vous qui ? Ben, les gens qui se croient religieux, les gens qui se croient meilleurs, les gens qui disent, mais j'ai pas besoin de me repentir, parce que moi j'ai déjà la religion, j'ai déjà la religion de mes pères, nous sommes religieux de père en fils depuis des générations. Jésus dit, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se repentir. Et quand il dit les publicains, les prostituées vous devanceront, il veut dire ceux qui se repentent, évidemment. Ceux qui, étant publicains ou prostituées, se repentent et croient au Seigneur, seront premiers dans le royaume des cieux. Et ceux qui se sont rengorgés ou ceux qui sont rassasiés de leur religion, eh bien, seront derniers, même seront rejetés. Parce que ce n'est pas par la religion qu'on est sauvé, ce n'est pas par des œuvres, des rites, c'est par la repentance et la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et donc la parabole de la 11e heure, elle peut être troublante parce qu'on dit c'est quand même C'est vrai, le pauvre gars qui a travaillé depuis le matin dans la chaleur, il touche la même chose que celui qui est venu après. Mais est-ce que vous avez remarqué que le premier, ils ont convenu d'un salaire? Il y a eu une sorte de contrat. Il dit, tu vas toucher un denier. Le maître a respecté son contrat. Mais les autres, est-ce qu'il y a eu un contrat? Qu'est-ce qu'il a dit aux autres? Je vous donnerai ce qui est raisonnable. Donc les autres, ils ont dû faire confiance au maître. Ils sont allés un peu à l'aventure, c'est-à-dire, on ne sait pas combien il va nous donner. Peut-être qu'il va nous donner un petit sou, hein, une pite, et non pas un denier. Et ils ont fait confiance à ce maître. Ils ont travaillé, en fait, pour ce maître, par confiance, presque par amour, on pourrait dire. Hein, parce qu'en fait, c'est un peu le sens de cette parabole aussi, de la 11e heure. C'est que les premiers ont travaillé pour un salaire. Les premiers, ce qu'ils voulaient, c'est être payés. Ce qu'ils voulaient, c'est être reconnus. Les autres qui ont suivi, ils travaillaient pour le maître. Ils avaient un esprit de service. Et peu importe ce qu'on allait leur donner, ils étaient prêts à travailler. Et dans le royaume de Dieu, c'est ça que Jésus attend. Si nous sommes des fonctionnaires de Dieu, hein, sans vouloir insulter les fonctionnaires, hein, de l'État, mais c'est-à-dire où nous servons Dieu pour être récompensés, nous servons Dieu pour un salaire, c'est-à-dire, ben moi, bon, il faut que j'obéisse à Dieu parce que je veux être béni et puis je veux être sauvé, alors il faut que j'obéisse. Hein. Mais si c'est fait comme ça par devoir, ben, vous allez avoir un denier, oui, c'est tout ce que vous allez avoir. Mais si vous servez le Seigneur, peu importe ce qui vous est donné, vous savez combien de chrétiens n'ont jamais été récompensés sur terre de leur travail. Des fois, ils n'ont même pas été reconnus. Personne n'est venu leur dire merci vraiment, tu as fait un super job. Personne. Ils ont fait leur travail caché. Mais le Seigneur, lui, a dit hein, qu'il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Ces chrétiens ont été récompensés. Après leur mort, dans le ciel, ils ont une magnifique récompense. Ces frères et sœurs qui meurent parce qu'ils sont chrétiens, qui sont tués, on peut dire, ils sont oubliés, hein, ils disparaissent, pchit, ils sont décapités, ils sont tués, assassinés, emprisonnés. Qui pense à eux vraiment? On en parle un petit peu dans les médias, mais pas trop en détail. Eh bien, ces frères et sœurs qui donnent leur vie par amour pour le Seigneur seront récompensés. Mais le chrétien qui est là par devoir, dans nos pays riches et libres, nous avons cette fâcheuse tendance hein, à nous endormir et à être un petit peu paresseux avec la foi et à dire, bon, je vais servir le minimum, hein, je vais faire le minimum légal. Et puis j'espère que Dieu va le voir hein, quand même, hein, que j'ai fait le minimum. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ça fonctionne avec la foi, l'amour, la confiance, pas un contrat entre nous et Dieu. Pour terminer avec cette idée de contrat, hein, les Juifs, justement, faisaient un contrat avec Dieu, c'est-à-dire, nous faisons des œuvres et toi, tu nous sauves, tu nous bénis. Et tout le Nouveau Testament est là pour dire, et même l'Ancien aussi, hein, que c'est par grâce qu'on est sauvé. Dieu veut être avec nous dans une relation gracieuse, on n'est pas dans le salaire, le donnant-donnant, on n'est pas en train de négocier avec Dieu, de faire du marchandage. Écoute, je te donne la dîme, mais alors il va falloir que tu me donnes une belle voiture. Hein. Ou écoute, je vais te donner 1 heure là de prière, mais il va falloir que tu me récompenses. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu, c'est par l'amour, par la foi, par la grâce. Le premier commandement, hein, c'est tu aimeras. C'est pas tu serviras. Avec obéissance, il dit tu aimeras le Seigneur. Et quand on aime, on sert, hein, forcément. Et c'est pour ça que les derniers seront les premiers, c'est que ceux qui ont un esprit de serviteur envers Dieu et envers les autres, finalement seront les premiers dans le royaume de Dieu. Ceux qui se mettent au-dessus des gens, ceux qui ont de l'ambition personnelle pour régner sur la terre, ceux-là seront rabaissés par Dieu, parce que l'orgueil est abaissé par Dieu. Mais les frères et sœurs qui sont au service de Dieu et des autres, ceux-là seront grands dans le royaume des cieux. Celui qui cherche la gloire du monde, il n'obtiendra que la honte au jour du jugement. La deuxième parole que j'aimerais voir ce soir se trouve en Matthieu aussi, 5, 42. Et c'est une parole que nous n'aimons pas trop regarder. Matthieu 5, 42. Non, c'est pas ça. 48, excusez-moi, j'ai mal écrit. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pourquoi ça nous déplaît cette phrase? C'est parce que ça nous demande d'être parfait. Alors immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais non, personne n'est parfait, personne ne peut être parfait. Qu'est-ce que ça veut dire cet ordre? Je ne peux pas être parfait, je suis un pécheur. Et d'ailleurs, on sait bien que dans le grec, parfait, ça veut dire accompli, complet. Ça ne veut pas dire parfait, parfait. Le problème avec cette interprétation ici, c'est que ça dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Or, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas parfait. Comme Dieu est parfait, on doit être parfait. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce que Jésus voulait dire là? Dans le contexte, on voit bien qu'il demande au verset 44 « d'aimer ses ennemis ». De bénir ceux qui nous persécutent. Et effectivement, pour avoir une telle attitude, il faut avoir quelque chose de parfait dans sa vie, hein, qui est la présence de Dieu. Récemment, au Kenya, il y a eu un massacre d'étudiants dans une université par des djihadistes. Et ils ont particulièrement visé les chrétiens, puisque avant de tirer, ils disaient hein, « Est-ce que tu es chrétien ou est-ce que tu es musulman ?» Si la personne était musulmane, il la laissait s'enfuir. S'il était chrétien, il l'abattait en rigolant, hein, puisque c'était vraiment un jeu pour eux. Il y a eu des dizaines de morts dans cette faculté. Le pays a été bouleversé. Et il y a cette mère qui a perdu un enfant, une mère chrétienne, et qui est passée à la radio. Et on l'a interviewée sur ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait. Elle était évidemment très triste et très malheureuse d'avoir perdu sa fille, je crois. Et elle a dit, ceci dit, au nom du Seigneur, je veux pardonner à ceux qui ont assassiné ma fille. Je veux prier pour leur salut. Et j'aimerais lui donner une Bible. Si celui qui a tué ma fille vient me voir, je lui donnerai une Bible. Et cette déclaration à la radio a beaucoup ému le pays parce qu'ils ont dit, voilà, ça c'est une attitude extraordinaire. Si on tuait mon fils, est-ce que j'aurais cette attitude de pardon? Comment je considérais les djihadistes? Et c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est au-dessus de notre nature humaine. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut être parfait comme Dieu est parfait. C'est qu'il ne faut pas être au niveau humain, il faut dépasser le niveau humain par la foi. Nous avons un Dieu parfait. Et j'aimerais commencer avec ça. Oui, comme votre Père céleste est parfait. Et c'est merveilleux d'avoir un Père parfait. Ici, il s'adresse à des croyants, bien sûr. Il ne demande pas ça à des personnes qui ne croient pas ou qui ne connaissent pas Dieu. Notre Père est parfait. En Deutéronome 32, verset 4, il est dit de Dieu, « Rendez gloire à Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Combien c'est bon d'avoir un Dieu parfait, de se rappeler que Dieu n'a aucun défaut, que Dieu ne se trompe jamais, que Dieu n'est jamais pris en faute, que Dieu ne fait jamais de mensonge, ne dit jamais de mensonge, que Dieu est absolument lumière, vérité, justice, sainteté. Il est fidélité, c'est pour ça que c'est un rocher. On peut se confier totalement dans ses promesses. Lorsque Dieu dit quelque chose, il va le faire parce qu'il est parfait. Il est dit dans Jacques que toutes choses parfaites viennent d'en haut du Père des Lumières. Il n'y a rien de mauvais en lui, rien de ténébreux. Non seulement il est parfait, ses voies sont parfaites, mais aussi sa création était parfaite. Romains 1:20, on peut regarder Romains 1:20, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on regarde la nature, on voit les perfections invisible de Dieu. Bien sûr, la nature est devenue imparfaite à cause du péché. Hein. La création tout entière soupe et soupire à cause du péché qui est entré. Ceci étant dit, elle garde des traces de cette perfection divine. Quand vous voyez les animaux, à quel point ils sont parfaitement adaptés à leur milieu. Les animaux, le poisson, il est comme un poisson dans l'eau, et le loup, il est comme un loup dans la forêt, l'ours, il est comme un ours dans le... Et tous les animaux sont parfaitement adaptés. Les plantes sont parfaitement adaptées, la création est magnifique. On voit bien qu'elle est terminée, d'ailleurs, la création. On voit bien qu'elle n'est pas en évolution, elle est terminée. Tout est magnifiquement placé. Il y a assez de nourriture pour nous. Il y a tout ce qu'il faut pour nous nourrir, pour nourrir tous les animaux, tous les êtres vivants. Tout est là. La création de Dieu est parfaite. Elle témoigne de cette perfection. Regardez comment sont dessinées les feuilles, les fleurs. Comme au niveau microscopique ou au niveau macroscopique, au niveau stellaire, au niveau des galaxies, tout est d'une beauté et d'une perfection extraordinaire. Quand vous regardez la précision des planètes dans le système solaire, que grâce à cette précision, on peut calculer exactement où sera telle ou telle planète dans 1500 ans, 2000 ans, 3000 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système suisse là. Hein. Dieu a mis un système suisse là qui tourne parfaitement, mais au niveau de milliards de kilomètres. Tout ça vient de Dieu qui est parfait. Non seulement il est parfait, non seulement sa création est parfaite, mais son salut est parfait. Hébreux 7, 25. Il est question du Seigneur Jésus dans ce verset. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, a tout accompli, c'est ce qu'il a dit. Il a tout payé. Non seulement cela, mais il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort définitivement. Il a vaincu le jugement. Ça veut dire qu'il peut nous sauver parfaitement. Jésus ne nous sauve pas à moitié, ne nous aide pas à nous sauver. Il n'est pas une béquille qui nous aide. Il est le sauveur à 100%. Et quand on met la foi dans ce sauveur parfait, on est parfaitement sauvé. Même si sur la terre, nous avons encore des combats, des luttes, et des tentations et des chutes, le salut qui a commencé son œuvre en nous la rendra parfaite. Nous serons glorifiés après la résurrection. Nous serons sans péché pour toujours. Et d'ores et déjà, nous pouvons vaincre le péché. Et j'en viens avec cela, avec cette phrase de Jésus. Soyez parfaits. Jésus veut nous protéger, nous prévenir de ne pas devenir paresseux et négligents. Soyez parfaits, tendez vers la perfection, visez le maximum, l'excellence. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la gastronomie française, aux grands chefs. Les grands chefs de la gastronomie française sont connus dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils visent la perfection. Pour eux, une assiette, c'est une œuvre d'art, comme une œuvre d'art hein, qu'on trouve dans la Sainte-Chapelle ou dans un musée, chaque assiette doit être parfaite. Et ils passent des heures et des années avec ça, juste pour vous servir une assiette que vous allez manger en 5 minutes. Ils cherchent l'excellence pour la gloire humaine, hein, pour leur satisfaction aussi personnelle, pour satisfaire le client. Et nous, chrétiens, parce que nous travaillons pour Dieu, parce que nous sommes bénévoles dans l'Église, parce que nous n'avons pas une couronne, une étoile sur la terre, nous avons tendance à dire, oh, bah, de toute façon, moi je vais faire le minimum. Si j'ai un strapontin au ciel, ça ira bien. Le tout, c'est que je sois au ciel. Je ne cherche pas le maximum, hein. Ça c'est pour les missionnaires. Et encore, moi je suis sauvé, c'est déjà une bonne chose de fait. Et maintenant je peux me reposer parce qu'en plus je suis sauvé, donc je n'ai plus à travailler. Je vais laisser les pasteurs et les missionnaires travailler pour moi. Ça, ce n'est pas l'attitude du royaume de Dieu. Christ a dit, soyez parfaits, visez la perfection, l'excellence, parce que nous travaillons pour un Dieu parfait, excellent. Nous avons un Dieu extraordinaire, alors comment pourrions-nous être encore négligents ? Il y a deux proverbes hein, que j'aimerais citer. Proverbe 18, 9, que je vous encourage à mémoriser. Hein. Proverbe 18:9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Se relâcher, c'est détruire déjà. Donc, en disant, oh, moi, je ne cherche pas, il ne faut pas être trop, aller trop loin, il ne faut pas être trop fanatique, hein. Moi, je veux une vie chrétienne moyenne, la moyenne, moi, je veux avoir 10 sur 20. Quelque part, en faisant ça, vous vous relâchez. Vous êtes dans le relâchement, vous n'êtes pas dans l'œuvre, dans le travail, dans la prière, dans le combat, vous n'êtes pas dans la recherche de la sainteté, des choses pures. Vous êtes déjà en train de vous relâcher et donc de détruire ce que vous faites. Proverbe 13:4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Les hommes diligents, c'est les gens qui travaillent, hein, les gens qui, justement, qui y vont, qui en veulent. Le paresseux, il a des désirs. Ah! Si je pouvais être rempli du Saint-Esprit, si je pouvais vivre un réveil, si les gens se convertiraient autour de moi, paf, 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 je dirais un mot et les gens seraient convaincus de péché. Ah, si je pouvais être un missionnaire dans des pays, ah, si je pouvais, si je pouvais, si je pouvais. Oui, le paresseux, il a des beaux désirs. Mais il n'y a rien qui se passe dans sa vie parce qu'il ne met pas la première vitesse. Hein. Il n'enclenche pas la vitesse, il ne se donne pas à Dieu. Il ne cherche pas, en fait, ces choses. Il en rêve, il les désire. Mais tous ses désirs sont insatisfaits. Alors que celui qui est diligent, celui qui travaille, celui qui en veut, et pas dans le mauvais sens du terme, hein, il obtient des choses. Ceux qui obtiennent des réponses à la prière, ce sont ceux qui prient avec foi, avec cœur, avec intensité, avec leur cœur entier. Quand on prie d'une façon détachée, comme si on n'était pas vraiment concerné. Hein. Seigneur, je te prie pour le monde, hein, j'espère que ça va aller mieux. Vous croyez que vous allez être exaucé en disant ça? Par contre, si vous priez pour quelqu'un de proche, Seigneur, il faut que je prie pour son âme, je ne supporte pas que son âme soit perdue. Là, vous vous engagez dans la prière. Là, vous cherchez la perfection dans ces choses. En toute chose, nous devons chercher la perfection. La Bible, et je terminerai avec ça, nous donne plusieurs exemples et nous demande d'avoir une fidélité parfaite. Tite 2:10. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des exploits, c'est la fidélité. Dieu nous a confié des choses, il faut être fidèle dans ce qu'il nous a confié. Certains, on va leur confier beaucoup, d'autres, Dieu va leur confier moins, mais même si on a moins, ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est d'être fidèle. Il faut aussi avoir une bouche parfaite. Jacques 3:2. Celui qui tient sa langue est parfait, dit la Bible. C'est-à-dire, quand ma bouche sait se taire quand il faut, quand ma bouche donne des paroles d'encouragement, de grâce, d'édification, là je deviens parfait, je tends vers la perfection. Et tendre vers la perfection, c'est déjà commencer à travailler sur sa langue, à bien la maîtriser. Hop, arrête-toi. Jean aussi, dans sa première épître, chapitre 2, verset 5, nous parle de l'amour parfait. Dieu veut que son amour soit parfait en nous. Et l'amour parfait, qu'est-ce qu'il fait? Bannit la crainte. Hein, l'amour parfait n'est pas dans la crainte. On n'est pas dans la superstition. On est dans une relation d'amour parfait avec Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas, comme je vous l'ai dit au début, avec les premiers et les derniers. Beaucoup sont dans un contrat avec Dieu. Non pas dans l'amour. Et on doit être de plus en plus aimer Dieu de tout son cœur. De plus en plus l'aimer. Pas dire, bon, maintenant, je pense que je connais bien Dieu, la Bible, on ne va pas aller plus loin. Non, on n'a jamais fini de progresser vers la perfection. L'apôtre Paul écrivait dans ses dernières épîtres, hein, « Je cours vers la perfection. » Jésus avait dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est-à-dire, ce sont ceux qui cherchent, qui courent, qui prient, qui désirent, qui en veulent. Alors le Seigneur veut qu'on soit des derniers, premiers, c'est-à-dire qu'on soit humbles, qu'on soit des personnes qui ont un esprit de service pour la gloire de Dieu Et il veut aussi qu'on soit parfait en même temps, mais pas parfait dans un mauvais sens, parfait en cherchant l'excellence avec Dieu, le meilleur. De ne pas se satisfaire du bien, chercher le meilleur avec le Seigneur. Parce que Dieu est un grand Dieu, il nous a donné tellement de choses, tellement de grâces. Nous avons même son Saint-Esprit qui demeure en nous, qui veut nous remplir. Il ne nous manque rien à nous d'utiliser tout cela pour être parfait à la gloire de Dieu. Amen.